Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.
Bonjour à tous, bienvenue dans le bénéfice du doute. Quelle juste place pour la religion entre espace public et espace privé ? Depuis une dizaine d'années en France, la laïcité est devenue le terrain de débats souvent tendus et surtout de beaucoup de malentendus. Le débat d'interprétation autour du concept fait rage à partir d'un certain nombre de points d'application concrets, alimentation, vêtements, passage ou partage du temps ou de l'espace. Historiquement, la laïcité et la loi de séparation de l'Église et l'État convenaient plutôt bien au judaïsme qui a su se couler dans le modèle français, tout en négociant parfois, ici ou là, sur le terrain, une place pour l'expression de la norme religieuse. Sous la pression de revendications plus récentes, émanant au départ pour l'essentiel de communautés musulmanes, le débat sur la laïcité est devenu un champ de mine dans lequel les positions des uns et des autres se raidissent et se confrontent. Or, l'une des zones de confusion principale tient au statut de l'espace public. L'impératif de neutralité qui s'impose à l'État laïque, à ses lieux propre et à sa fonction publique, doit-il s'imposer aussi à l'espace public, à la rue, comme le soutiennent ceux qui affirment au nom de la laïcité que la religion doit rester affaire purement privée, ou l'espace public doit-il permettre la coexistence pacifique des consciences et des appartenances religieuses, ce qui peut signifier de leur laisser une place plus ou moins visible. Autant de questions brûlantes que nous nous proposons de rouvrir, mais prudemment, en faisant un détour par un objet très spécifique, très particulier, auquel mon invité d'aujourd'hui, Astrid von Buskist, vient de consacrer un livre intitulé « Portes et murs, des frontières en démocratie » aux éditions Albin Michel. Astrid von Buskist, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureuse d'ouvrir avec vous ce nouveau cycle d'émissions. Vous êtes professeure de théorie politique à Sciences Po, vous êtes spécialiste des langues et des nationalismes. Et cet objet très spécifique auquel vous consacrez donc votre travail, c'est le Hérouv. Le Hérouv, que seuls les juifs les plus religieux connaissent. Est-ce que vous pourriez du coup d'abord nous expliquer de quoi il s'agit, ce que c'est que cet Hérouv et surtout ce que vous avez été y chercher ?
Alors, l'Hérouv répond très exactement à la question que vous posiez, c'est-à-dire celle de l'espace, du partage de l'espace public, puisque l'Hérouv, qui est donc un artefact très singulier, est un moyen de privatiser, tout simplement, dans la loi juive, enfin tout simplement, c'est plus compliqué que ça, un bout de l'espace public, et qui permet donc de faire un certain nombre de choses qui autrement sont interdites le Shabbat. Par exemple, porter, pousser, ou plus exactement transporter, puisqu'on sait qu'il est interdit de transporter d'un lieu privé vers un lieu public et d'un lieu public vers un lieu privé le Shabbat. On ne va pas parler de l'origine de cette loi, elle est assez incertaine hein, en vérité, mais l'objet ou le but de l'Hérouv est de permettre de vivre dans le public tout en faisant des choses qui sont autrement interdites. Et ça se matérialise par des petits fils qui s'accrochent au mobilier urbain ou qui s'appuient sur la topographie naturelle, tout simplement, et qui encerclent, en quelque sorte, mais de manière presque invisible et immatérielle, une zone qui, du coup, est privatisée.
Oui, alors du coup, c'est une frontière qui ne se voit ou qui ne fait sens que pour ceux qui sont concernés, que pour ceux qui vont la guetter.
Exactement.
Sur les poteaux télégraphiques, sur le mobilier urbain.
Exactement.
Les autres pourraient tout simplement ne même pas la remarquer.
Exactement. La plupart des gens ne savent pas, lorsqu'ils se déplacent à l'intérieur de la zone délimitée par les rouves. Pour ceux, en revanche, que cela gêne, parce qu'ils connaissent la signification du symbole, ils guettent en effet ce qui fait office de frontière, mais ce qui est très très ténu.
Où est-ce qu'il y a des hérouvim, du coup ?
Un peu partout, pas à Paris, mais à Anvers, par exemple, et dans toutes les grandes villes des États-Unis. Tous les bâtiments fédéraux de Washington, par exemple, sont à l'intérieur de l'hérouv, ce qui est assez cocasse.
Bien sûr, et en Israël, bien sûr.
Et en Israël, bien sûr, un très grand nombre. Jérusalem, par exemple, l'ancienne ville, pour peu que les portes soient fermées, pourrait fonctionner, enfin les fortifications, comme hérouv.
Alors du coup, une ligne ou une clôture quasiment transparente, presque invisible, mais en même temps absolument indispensable pour ceux qui en ont besoin pour vivre une vie aménagée le jour de Shabbat, par exemple transporter les enfants en poussette à la synagogue, porter des livres, ce genre de tâches qui sinon sont compliquées. Ce genre de frontières invisibles qui ne devraient pas gêner, puisque ça n'abîme pas l'espace public, pourquoi est-ce que ça peut poser problème, du coup ? Dans quelles interactions ça nous fait entrer ?
Alors, c'est assez compliqué. Il y a une série de problèmes. Et justement, ils sont de plusieurs ordres. Il y a, d'une part, le dialogue avec la justice. Tout simplement parce que pour que les roufs soient cachères, il faut qu'il y ait l'imprimatur, l'autorisation des autorités municipales. C'est-à-dire que pour que les roufs puissent fonctionner tel qu'il doit fonctionner à l'intérieur de la religion juive, il faut qu'il y ait approbation des autorités municipales. Bon. Donc ça, c'est une première interaction qui se passe dans les arènes de la justice, généralement, et qui met face à face les représentants des communautés et la justice, le droit public.
Parce qu'il faut qu'un morceau d'espace soit cédé symboliquement ?
Exactement, et ça se passe généralement par le loyer, c'est-à-dire un loyer symbolique, là aussi, mais la plupart des maires, par exemple, des villes, ne savent absolument pas comment faire, puisque ça n'a aucune valeur dans le droit positif. Et pourtant, ce document est d'une utilité capitale pour la communauté. Donc ça, c'est une première interaction. Une deuxième interaction a un rapport avec ce que nous percevons et ce que nous voulons de l'espace. C'est-à-dire, c'est un espace public, mais qui est donc symboliquement privatisé, même s'il ne change rien à la manière dont nous nous déplaçons dans l'espace. Mais donc, la question de la propriété, de la possession, de l'occupation de l'espace est contestée par ceux qui s'opposent à l'Hérouve, qui ne sont pas seulement les non-juifs. Hein, les lignes de clivage traversent aussi la communauté juive elle-même.
Alors justement, pourquoi, au nom de quoi est-ce que cette emprise purement symbolique sur l'espace public peut poser problème ? Est-ce que c'est en quoi est-ce que ça peut poser problème aux voisins non orthodoxes que de constituer un hérouf sur un quartier où vivent majoritairement des populations haredis ?
C'est compliqué, c'est-à-dire que là encore, il y a plusieurs critères. Par exemple, le critère de la visibilité, qui est à la fois un critère difficile et facile à manier. Difficile parce que les juifs très orthodoxes sont visibles de toute façon, donc ça ne change rien que d'avoir un hérouve ou pas d'hérouve. Donc critère de la visibilité, critère esthétique, mais qui est là aussi relativement frustrant comme critère et très ténu puisqu'on ne voit pas les fils de l'hérouve. La question de la démographie juive, dont on craint que l'hérouve attire...
Ça invite à s'installer à l'intérieur des frontières de l'Hérouve.
Exactement. Mais en même temps, l'Hérouve, il fonctionne 25 heures par semaine et ce sont de fines lignes. Donc, en vérité, au quotidien des individus qui vivent dans le quartier, ça ne change strictement rien.
Et en même temps, la question de l'homogénéité de peuplement, elle est absolument cruciale dans les grandes villes modernes où nous sommes à la fois à l'aise avec l'idée d'un regroupement par affinité communautaire, religieuse, ethnique, et en même temps extrêmement gênée avec le concept, puisque nous valorisons le mélange des populations, la diversité, le vivre ensemble. Donc est-ce que cet argument-là, quand il ne flirte pas avec l'antisémitisme, ce qui arrive parfois, est-ce qu'il n'est pas en même temps recevable ?
Il est tout à fait recevable, mais il faut savoir ce qu'on entend par diversité. C'est-à-dire que c'est toujours la même histoire. On mélange des critères. Il y a des critères qui appartiennent strictement aux politiques ou au libéralisme, disons, les frontières entre le public et le privé, l'individu et la communauté. Ça, c'est des critères clairs. Il y a une deuxième série de critères tout à fait politique aussi, qui font appel aux principes, l'égalité, la liberté. Donc, deuxième série de critères. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les rouves ? Qu'est-ce qui se joue dans les rouves ? Il me semble que le quartier, pourtant, dans les villes globales, dans les métropoles, on valorise la diversité. En même temps, comme vous le disiez très justement, on veut que notre quartier nous appartienne. C'est-à-dire, on rejoue le contrat social au niveau du quartier. C'est-à-dire, je veux être maître de l'image de mon quartier. Et si cette image est abîmée par une aura métaphysique, par exemple les rouves, ou par une population trop visible, cela me gêne. Parce que ce qu'on demande aux religions globalement dans l'espace public aujourd'hui, c'est d'être silencieuse et discrète. Or, il y a certaines populations, certaines communautés qui tout simplement ne sont pas invisibles et qui sont moins discrètes, tout simplement simplement par la manière d'être dans le public. Et lorsque des familles de Haredi se déplacent dans le public, pas seulement le samedi d'ailleurs grâce à l'Hérouv, mais en général, ça suscite une appréhension chez un certain nombre de citoyens. Ça, c'était très clair à Outremont, par exemple, au Canada, au Québec.
Oui, puisque la plupart de vos exemples, effectivement, vous les empruntez au contexte américain et canadien, surtout,
oui,
la marge de négociation avec les puissances publiques est généralement plus souple qu'elle ne le serait dans le contexte de la laïcité
absolument
à la française. Sur la question de l'emprise, il me semble qu'on voit apparaître aussi un autre argument qui est celui de la progression finalement de l'influence ultra-religieuse avec ce jeu de mots d'ailleurs que vous rappelez. Ça leur permet de pousser leurs poussettes et de push their orthodox agenda, de pousser l'agenda orthodoxe, c'est-à-dire de faire valoir leurs revendications. Comment aussi on peut comprendre ce genre de choses? Est-ce que ça ne reflète pas un débat que nous avons aussi en France, qui est celui des prières de rue, par exemple, ou de, plus discrètement, les réticences que peuvent susciter l'installation d'un temple ou d'un lieu de prière dans un quartier d'habitation?
Je pense que là aussi, les mêmes critères que ceux que j'ai énoncés tout à l'heure valent. C'est-à-dire, il y a une vision normative de ce que doit être l'espace urbain. Bon. Et dans cet espace urbain, il faut à la fois que nous respections un sacro-saint principe libéral qui est celui de la diversité, du pluralisme des valeurs, mais en même temps, il y a un seuil fatidique à ne pas franchir. Alors ce seuil se franchit de différentes manières. Il se franchit soit par la visibilité, soit par l'occupation comprise comme une occupation du territoire, mais qui en vérité, si on regarde en tout cas les débats sur les rouves, est en vérité tout simplement une lecture plus souple de l'espace et ne correspond pas à une occupation de territoire, parce que ce qu'on a lu sur les prières de rue, c'est précisément de l'ordre de l'occupation, du peuplement en quelque sorte d'une religion étrangère, de notre espace public. Et donc les critères pour évaluer les États-Unis, comme vous le disiez tout à l'heure, ont des critères un peu plus, à la fois plus souples et plus sûrs pour évaluer justement en quoi ça relève de la nuisance ou de la non-nuisance.
Mais est-ce que ce principe de non-nuisance, finalement, ne pas nuire à autrui, et tant qu'on reste dans cette limite-là, le droit séculier n'a pas à se mêler de l'ordre normatif de la religion? Est-ce que ce principe nous suffit, du coup, pour penser les difficultés que peut susciter les roues?
C'est-à-dire que, oui, alors est-ce qu'il nous suffit? Je n'en suis pas tout à fait sûre, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'on fait jouer et varier à chaque fois des critères différents pour évaluer des choses différentes qui relèvent de la religion. La prière de rue, l'abattage rituel, la circoncision, les rouves, la construction de monuments religieux, etc., sont à chaque fois évalués avec des critères qui ne sont pas toujours isomorphes. Une fois, ou le voile, par exemple, tantôt il s'agit de l'égalité des sexes qui relève d'un des grands principes dont on parlait tout à l'heure, l'égalité. Tantôt, pour la circoncision ou l'abattage rituel, par exemple, on part dans des critères qui sont presque au-delà du politique, l'humanité, des critères universels qui ne sont pas propres à la République, à la laïcité,
à
l'intégrité du corps humain, etc. Donc on fait varier des principes qui ne sont jamais tout à fait les mêmes et donc il est très difficile d'avoir un discours cohérent sur chacune des pratiques. Et ce que l'Hérouve m'a appris, il me semble, c'est que la pertinence avec laquelle les juges ont évalué cette demande-là était à chaque fois contextuelle. C'est-à-dire qu'elle prenait en compte une large série de principes que j'évoquais à l'instant.
Alors justement, ce qui est absolument passionnant dans votre travail, c'est qu'on rentre dans le détail de cette négociation sur le terrain, très contextualisée, sur cette question de l'Hérouve, et en particulier dans ce dialogue qui doit se nouer entre le langage de la religion et sa logique, et sa pensée, et le langage du droit séculier. Alors, comment se fait cette négociation? Dans quelle langue elle se fait? Est-ce qu'il y a une langue commune? Est-ce qu'on choisit la langue de l'un, la langue de l'autre? Comment se joue cette interaction de ces deux modes de pensée?
Ça, c'était absolument passionnant, parce que, justement, l'Hérouve, non seulement donc, a besoin de l'autorisation des municipalités, mais est les communautés doivent aller dans le public dans la mesure où ils doivent négocier devant la justice. Bon, alors comment ils font ? Donc ils ont plusieurs registres à leur disposition, mais généralement, pour résumer un peu ce que j'ai observé, les juges devaient se gendarmer, se garder de ne pas légiférer à l'intérieur de la loi juive, c'est-à-dire d'aller voir ce qui leur paraissait incohérent de leur propre point de vue au sein de la religion. Et les communautés elles-mêmes devaient se mouler dans le langage du droit public libéral, disons, pour pouvoir faire entendre leur, leur demande. Et du coup, il y a eu une activité de coopération, de traduction des principes des uns vers les autres.
Et en même temps, l'immixtion de représentants du droit séculier dans la logique de la religion, elle s'observe par exemple avec les arguments de ceux, ce sont surtout d'ailleurs des juifs séculiers, qui contestent la tricherie que représenterait l'érouv. L'érouv, finalement, c'est un moyen de contourner ou de transgresser les règles du Shabbat, de les aménager à son propre profit, et finalement, il y aurait une mauvaise foi là-dedans. Alors, ce genre de logique où finalement on essaie d'entrer dans la logique de la religion pour la contester de l'intérieur, on la voit réapparaître sur d'autres terrains. Par exemple, est-ce que c'est comparable, justement, jusqu'où on peut mener cette analogie, dans le discours qui est parfois tenu sur certains éléments de religion qui ne seraient pas strictement indispensables, finalement? Est-ce que le voile est une obligation religieuse? Est-ce que l'abattage rituel tel qu'on le pratique ne transgresse pas sa propre signification, sa propre logique, qui est de ne pas faire souffrir les bêtes, dès lors qu'aujourd'hui il revient à faire souffrir les bêtes? Est-ce qu'on n'est pas dans cette manière d'entrer dans la logique de la religion pour la contester de l'intérieur?
Alors je pense que cette logique est une tentation que nous avons tous tout le temps, c'est-à-dire que lorsque nous ne sommes pas savants, c'est-à-dire que lorsque nous ne connaissons pas la teneur du texte, nous avons une tendance à nous faire plus savants que les savants. Bon. Et en général, lorsque nous contestons ce qui est en jeu, que ce soit le voile ou l'abattage rituel. Maintenant, je pense que les deux exemples que vous citez, le voile et l'abattage rituel, relèvent là encore d'une hiérarchie de principes tout à fait différente. C'est-à-dire, à quoi fait-on appel? Et c'est d'ailleurs une immixtion aussi. C'est-à-dire qu'on se met au nom de l'égalité entre les sexes, on se met à la place de la femme pour lui dire ce qu'elle doit penser. C'est-à-dire que le voile est évidemment le signe de la domination, donc de la domination masculine, alors que ce n'est pas nécessairement pour toutes les femmes qui se voilent le cas. Donc, et est-ce que le voile est nécessaire? Ce n'est pas à nous de le dire. Je pense que là, pour le coup, c'est l'autre principe, non pas celui de l'égalité, mais celui de la liberté, qu'il faut respecter. Mais, évidemment, au-dessus de tout ça, il y a là, pour le coup, la norme bornée par notre espace politique qui est celui de la République, et donc de la laïcité républicaine qui interdit les signes religieux en public, dans les écoles, etc. Bon.
Et quand les représentants des communautés religieuses doivent argumenter en faveur de l'érouv, comment est-ce qu'elles peuvent emprunter au langage du droit séculier ?
C'est là où ils ont été très 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 malins dans la plupart des cas, parce que justement ils ont accepté de justifier une réalité religieuse. Le traité Hérouvin fait 800 pages, hein. C'est un des traités les plus compliqués géométriques, mathématiques qui soient. Et donc ils ont accepté de traduire à l'usage du profane ce que ça pourrait, en quoi cela pourrait contribuer au libéralisme lui-même. C'est-à-dire, si les femmes peuvent sortir en poussant la poussette de leurs enfants, si on peut sortir les vieillards dans leur fauteuil roulant, alors on leur permet d'accéder au public et on leur permet de vivre en famille, et donc on leur permet l'égalité.
Et du coup, c'est au nom de cette amélioration ou facilitation de la vie sociale, de la vie communautaire, que le Hérouv peut être du coup considéré comme légitime sans empiéter sur la promotion d'une religion dans l'espace public.
C'est exactement ça, et c'est comme ça qu'il a été compris par tous les juges qui ont néanmoins, quand même, il faut le rappeler, tenté d'évaluer tous les principes du premier amendement et notamment la clause de non-établissement. Donc ils ont aussi très 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 attentivement scruté la manière dont les rouves pouvaient éventuellement être en contradiction avec le premier amendement.
Oui, parce que vous faites effectivement allusion à des batailles légales extrêmement extrêmement dures, longues, hein, qui sont remontées très haut dans les juridictions américaines, de contestation pied à pied entre adversaires et partisans de l'Hérouve, je crois dans le New Jersey, c'est ça?
Oui, et au Canada également, où c'est allé jusque devant la Cour suprême du Canada. Donc c'était une vraie bataille sur à la fois la place de la religion dans l'espace public et une leçon sur la souplesse libérale. C'est-à-dire que la justice peut à la fois accéder à des demandes communautaires, parce que là il s'agit de communautés entières et pas seulement d'individus, et peut légiférer finalement de manière très souple en faisant valoir des principes communs. C'est pour ça que l'Hérouve est finalement à la fois spatialement quelque chose qui partage, mais par la traduction et par ce travail de coopération et de compréhension entre la justice et les communautés, quelque chose qui fait signe plutôt vers un accord que vers une séparation.
Et en même temps, ça pose un défi extrêmement instable à la tolérance de la démocratie libérale. Est-ce que le Hérouve a quelque chose d'exemplaire? Et là, ma question est plus générale. Est-ce que les signifiants juifs ont une exemplarité qui peut être réutilisée aujourd'hui pour clarifier le débat sur la laïcité à la française? Je rapatrie le débat sur notre terrain, hein, puisque vos exemples sont essentiellement américains, canadiens, un peu israéliens, où il y a aussi des batailles très dures, sur le terrain français, où la question de l'Hérouve ne s'est pas posée, ou ne pourrait pas se poser, ou serait réglée d'avance, je ne sais pas, on peut en discuter. Quelle exemplarité, du coup, à cette négociation autour de l'Hérouve sur le terrain français?
Je pense que si vous avez commencé par la laïcité, et je crois que vous avez raison. Si on a la laïcité aujourd'hui est toujours adjectivée, laïcité ouverte, laïcité fermée, etc. Et je crois que c'est un problème. Je crois que la laïcité, si on la prend au pied de la lettre, veut dire à la fois la liberté de conscience, la non-discrimination et l'accès de tous à l'espace public, mais un accès négocié. C'est-à-dire que la laïcité ne renvoie pas dos à dos l'État et les communautés, me semble-t-il, mais d'abord protège les religions de l'emprise de l'État, parce que c'est précieux, justement, parce que nous y tenons. Il s'agit de notre fort intérieur et de notre identité religieuse, pour ceux en tout cas qui en ont. Mais je pense que si on interprète la laïcité justement ainsi, c'est-à-dire comme une nécessaire négociation pour le partage de l'espace public, puis laos, hein, l'espace public de tous, alors on a, deuxièmement, on arrive à serrer les problèmes comme on a réussi à le faire dans les Rouves, c'est-à-dire est-ce qu'on parle de la loi de la République? Est-ce qu'on parle de grands principes politiques de séparation? Ou est-ce qu'on va chercher au-delà, encore une fois, universalisme, humanité, qui sont d'autres catégories encore et qui s'accordent pas toujours avec les principes politiques plus bornés par la Constitution, par exemple, en France, alors l'Hérouve a certainement valeur d'exemplarité parce qu'il s'est joué sur l'accord, le consensus et un dialogue constructif et a priori pas sceptique. A priori pas sceptique, c'est-à-dire qu'on n'a pas a priori dit il y a un empiètement du judaïsme et de la religion sur l'espace public, mais on est parti au contraire, pas pour les opposants, mais la justice, du principe que même la visibilité et le partage de l'espace peuvent peut-être être une leçon pour notre compréhension moderne du partage de l'espace public. Voilà. Donc comme un ajout et non pas comme un retrait en quelque sorte.
Bien sûr, et du coup la suite du travail dans le prolongement de votre réflexion, c'est d'en tirer des ajustements point par point sur les différents registres d'exemplarité de ce Hérouve, avec évidemment quelques questions, l'enjeu du prosélytisme par exemple. Est-ce que le critère de distinction entre le Hérouve qui ne devrait pas poser problème et d'autres types de situations d'empiètement sur l'espace public, est-ce que c'est pas la question du prosélytisme? Nous y réfléchirons une autre fois. En tout cas, merci beaucoup Astrid von Buski. Je rappelle le titre de votre livre, Portes et murs, des frontières en démocratie, aux éditions Albin Michel. Merci. Merci beaucoup.
C'était Le Bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.